la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
Je vous en ai parlé déjà relativement souvent dans cette chronique. La moitié du fourbi est une très belle revue qui paraît deux fois par an. Littérature et appel d'air, c'est le sous-titre de cette moitié du fourbi. Le numéro 14 date de cet automne 2022. Et chaque fois, pour la moitié du fourbi, il est question d'un mot, d'une notion, ici d'une lettre, qui va stimuler l'écriture des différents collaborateurs et collaboratrices de la revue. X, c'est le choix pour cet automne 2022. Évidemment, X avec une couverture barrée d'un grand X, lui-même coloré de fragments de toile, des peintures que l'on doit à Joël Dubois, peintures relativement sexuelles et sexuées, mais encore que. Dans l'entretien qui suit le fascicule, qui reprend quelques-unes de ces peintures, on comprend qu'il est question de pas mal d'autres choses au sein des peintures de Joël Dubois, avec notamment une question de société et une question plutôt politique qui entre en jeu. X donc, comme aussi la génération X, X comme la disparition, l'anonymat, X comme la possibilité d'un facteur de mathématiques, X décliné en texte, en photo, en dessin, en entretien, et avec un certain nombre d'autrices et d'auteurs qu'on retrouve assez souvent dans la moitié du fourbi, dont ceux qui font le comité éditorial, par exemple Anthony Poiraudeau, Hélène Gaudy, Hugues Leroy, Zoé Balthus, Frédéric Fioloff, qui est aussi le directeur de publication, et Noël Rollet. Alors, parmi la centaine de pages qui font le numéro 14 de la moitié du fourbi, qui coûte, je ne l'ai pas encore dit, 15 euros, il est difficile de choisir un extrait pour vous donner envie d'aller vous procurer cette très belle revue en librairie. Ça pourrait être les exercices de style de Hugues Leroy, c'est tout à fait étonnant. Un programme informatique permet, dorénavant, d'écrire à la manière de. Et Hugues Leroy en fait l'expérience sur la base du récit d'Hamlet, à la manière de différents écrivains très connus. Je vous laisserai le découvrir, car il est difficile de le lire sans en perdre une partie de la saveur. Mais par exemple, ce pourrait être Tintin, de Hélène Gaudy. Très beau texte, autour de l'anonymat, justement. Il s'appelle Augustin. Augustin Tin, 21 ans. Engagé volontaire, soldat de deuxième classe, debout dans sa capote de poilu, de ce bleu qu'on appelle bleu horizon, Augustin Tin. Fils d'un homme mort à la guerre, est un vivant qui doit choisir un mort qui lui ressemble, un soldat qui doit choisir le soldat inconnu, l'anonyme parmi les anonymes, le disparu parmi les disparus. Entre les morts et lui, il n'y a que peu de différence, surtout qu'il porte encore la posture de la guerre, les vêtements de la guerre. Entre les morts et lui, il n'y a qu'un peu de temps gagné, un peu de chance. Et c'est là qu'il se tient, Augustin. Dans le miracle coupable de sa chance, d'où il se prépare à démêler les morts. On est au lendemain de la guerre, comme si la guerre tenait en une journée, qui s'appellerait toujours hier, comme si, à cette journée, un lendemain était possible. On est au mois de novembre, le 8 exactement. Toute l'année, c'est novembre, comme dit la chanson. Toute la vie, c'est novembre maintenant. Augustin doit choisir, dans l'assemblée des morts, un seul corps sans histoire pour que toutes les histoires s'agrègent à ce corps. Devant lui, ils sont huit. On les appelle les déshérités de la mort. Même pas la mort en héritage, même pas leur propre mise en terre, rien, Tintin. Même pas le chagrin de leurs proches, ou juste un chagrin qui se cogne sans se poser sur aucune tombe. Huit inconnus dans huit cercueils. Le premier vient de la Somme, le deuxième de Flandre, le troisième d'Île-de-France, le quatrième d'Artois, le cinquième de Lorraine, le sixième de Champagne, le septième du Chemin des Dames. Le dernier vient d'ici, de Verdun. Peut-être a-t-il erré, vivant dans cette caserne, et pénétré un jour dans la chapelle ardente, comme le fantôme prémonitoire d'Augustin Tin, debout toujours, bleu horizon toujours, les yeux baissés sur les cercueils. Ils sont huit inconnus que l'on a ramassés sur huit champs de bataille. Il y aurait dû y avoir un neuvième lieu, incarné par un neuvième corps, mais dans ce lieu-là, que j'ignore, ils étaient si imbriqués, les corps si méconnaissables, qu'il était impossible d'être sûr que l'un d'entre eux était français. Il n'aurait pas fallu, c'est sûr, enterrer sous la dalle, cette lourde dalle de granit de Vire, où il est écrit « Ici repose un soldat français mort pour la patrie », il n'aurait pas fallu, non, enterrer ici un corps allemand mort pour sa patrie, à lui. Ça aurait été une mauvaise blague. Quoique personne n'en aurait rien su, quoique la chair allemande du soldat allemand aurait pourri pareil dans le bois du cercueil. Il avait fallu déchiffrer les signes pour écarter tout risque de confusion. Il avait fallu débarrasser l'uniforme de la boue, du sang, du reste, dénouer les corps pour être sûr qu'aucun doute ne puisse lier la chair française, la chair allemande. Pourtant, allemand, le soldat aurait été plus inconnu encore, plus déshérité de la mort. L'erreur, le choix aveugle de l'ennemi aurait été le stade ultime de l'état inconnu du soldat inconnu. Mais ce n'est pas ce qu'on lui demande au soldat étendu qui n'est pas choisi encore par Augustin. Augustin Tin, ce n'est pas ce qu'on lui demande, pour autant qu'on puisse demander quelque chose à un mort qui n'a rien demandé, lui. Ce qu'on lui demande, ce n'est pas d'être tous les hommes et leur mutuel anéantissement, mais d'être le digne représentant d'une fracture qui durera jusqu'à la prochaine guerre, s'élargira à la suivante. C'est d'être le caillou qui creuse le sillon au fond de la rivière, un caillou qui n'arrête aucune eau, un symbole posé là, cerise sur le gâteau à la gloire de sa propre mort. Voilà la mission d'Augustin. Augustin Tin, dans la chapelle ardente, debout, dans sa capote de poilu. Augustin qui porte son casque de poilu. Augustin qui revient de la guerre, jamais vraiment hier, jamais vraiment fini, et qu'il faut bien marquer d'une pierre blanche. Il doit choisir sa traîne, il doit chercher comment départager ses 8 corps, dans leurs 8 cercueils de chêne, ces 8 corps dont il ne voit rien, ces 8 corps qu'il ne peut élire, Augustin, pour une mèche de cheveux, une torsion de la main, une forme de connivence, rien qui puisse faire écho à rien. Devant lui, il n'y a que 8 boîtes de bois couvertes de 8 drapeaux, couverts de 8 rameaux. Toute l'année, c'est novembre, c'est fin 1920. Et rien ne dit à Augustin lequel vient de la Somme, lequel de Flandre, lequel d'Artois ou d'Île-de-France, de Lorraine, de Champagne, lequel du Chemin des Dames et lequel vient d'ici, de Verdun. On a rebattu les cercueils comme des cartes, déplacés, intervertis, chaises musicales, pour préserver l'anonymat de leur provenance, pour ne pas qu'Augustin puisse nouer avec l'un d'eux l'amorce d'une histoire, pour ne pas qu'il s'accroche au nom familier d'un village à l'image fixe d'un champ, à une tranchée, à un soleil, l'éclat, la bûche, l'ongle noir, l'odeur des autres, pour que rien ne s'attache au bois mort. Et puis André Maginot, de la ligne Maginot, tend à Augustin, Augustin Tin, un bouquet d'œillets blancs et rouges. Il les dépose sur le cercueil, puis il se fige au garde-à-vous. « Il me vint une pensée simple, » dira plus tard Augustin. « J'appartiens au 6e corps. » En additionnant les chiffres de mon régiment, le 132, c'est également le chiffre 6 que je retiens. Ma décision est prise, ce sera le 6e cercueil que je rencontrerai. Augustin se livre à l'abstraction des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il rencontre le 6e cercueil. Augustin s'accroche à un code inventé par lui seul, pour lui seul. Puisqu'Augustin a combattu, lui aussi, dans la Somme ou ailleurs, il sait qu'il y a, dans les cercueils, tout le contraire des chiffres. Il sait qu'il y a des corps absurdes, en morceaux absurdes. Alors, Augustin s'accroche au corps auquel il appartient et qui, lui seul, encore se tient. Le 6e corps, corps collectif. Alors Augustin choisit d'éviter de choisir, que la justice des chiffres annule ses souvenirs. Pour élire l'inconnu parmi les inconnus, il faut à Augustin cette succession d'oubli. Il faut ces lieux confondus et l'abstraction des chiffres pour enfoncer le clou. Il faut ces cercueils déplacés, ces cercueils couverts par les drapeaux jetés dessus. Il faut que le choix se change en une succession d'accidents qui rendent le soldat de plus en plus inconnu, de plus en plus invisible, de plus en plus profond, au fond de la rivière, à chaque instant, à chaque rite, comme s'il descendait des paliers de hasard, jusqu'à ce qu'en lui se fondent les 7 autres inconnus, ceux-là et tous les autres, qu'il s'arrime à son corps inconnaissable. Quelques mois plus tôt, c'est encore hier. On fusille des hommes pour refus de combattre, refus d'obéissance, mutilation volontaire, désertion, prostration, pour, pleurs, immobilité, mutisme, refus de manger, de pisser, d'ouvrir les yeux, refus de mettre un pied devant l'autre, pour l'exemple, pour dire aux autres, voilà ce qui arrive quand... Le soldat inconnu, on l'enterre pareil parce que l'arbitraire est autant cruauté que mansuétude. On l'enterre pour l'exemple, et l'exemple est aveugle. Et être aveugle est un travail auquel s'astreint Augustin Thin. Le soldat inconnu prend le train jusqu'à Paris, toute la nuit on le veille, puis le porte en grande pompe sous l'arc de triomphe. On l'enterre sous la dalle. On fait brûler une flamme, en souvenir d'une petite lampe dans un cimetière d'enfance, et des lueurs, des feux follets. Quelqu'un a eu cette idée charmante. Et Maginot, toujours, allume la flamme dans la gueule d'un canon pris à l'ennemi, serti au centre d'un bouclier orné de glaives. Il l'allume avec un tampon d'étoupe enflammé au bout d'un fleuret. Au début, on compte allumer la flamme tous les 11 novembre. Mais puisque novembre, c'est toute l'année, on décide de la rallumer chaque soir et on jure qu'elle ne devra jamais s'éteindre, qu'elle sera ravivée chaque jour à 18h30. Chaque jour, on défilera en toute saison, vers la nuit pleine de novembre, en tête ceux qui portent les gerbes, ceux qui portent les drapeaux au son du tambour du clairon. Tant de symboles de ferronnerie pour habiller le corps inconnu du soldat inconnu, ce corps seulement tenu par les fibres bleues horizon de sa veste de poilu. Que reste-t-il alors du soldat inconnu quand on l'enterre en grande pompe, en présence des ministres et des maréchaux de la guerre? Il y a là Joffre, Foch, Pétain, il y a des clairons, encore, des fleurs, encore, surtout. Il y a la certitude que dans le cercueil, il n'y a plus rien qui nous ressemble. Alors seulement, on pourra dire « il est mort, n'importe où », on pourra dire « je l'ai connu ». Je le réclame, comme ces soldats amnésiques pour lesquels se battent les familles. On pourra dire « je suis son fils, sa sœur ». On pourra dire « je suis la femme du soldat inconnu, je suis sa femme nombreuse, plus inconnue encore que mon inconnu de mari ». Le soldat inconnu, choisi en novembre, a été mis en terre en janvier, comme s'il avait fallu encore le laisser se dissoudre dans la grande marmelade des corps, comme si, plus le temps passait, plus il serait apte à accueillir tous les autres dans sa dissolution, sans doute pour appartenir, corps et âme, à une nation, faut-il finir par disparaître, tout à fait. C'est un texte d'Hélène Gaudy, Tintin, extrait du numéro 14 de la revue La moitié du fourbi, littérature et appel d'air, daté de cet automne 2022, dont le thème est X et qui vous coûtera 15 euros. On réédite ces temps-ci Casse Product. C'est une très bonne idée. Écoutons Pussy X.
Still be like